Bonjour, autre radio, autre culture. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 février 2008 et nous avons la grande chance de recevoir Angèle Parra. Angèle, compositeur, chanteur, auteur.
Oui, un peu écrivain aussi. Surtout clown, je dirais, parce que je crois que j'ai beaucoup d'humour. Je viens à la vie, rigoler, passer des bons moments. Et ça fait 64 ans que ça dure, bientôt 65. Donc je suis à l'âge de la retraite, bientôt. Et oui, auteur, compositeur, interprète, selon la SACEM.
Peut-on être à la retraite ?
Oui, on peut, d'un point de vue administratif. Mais naturellement, moi, je commençais à faire de la musique à l'âge de 6 ans. Donc, j'aurais dû partir à la retraite il y a longtemps, mais ça ne s'arrêtera jamais. Parce qu'un jour, on découvre qu'on a envie, par exemple, moi, j'ai envie d'apprendre le piano et j'ai déjà commencé. Et ça sera une autre aventure, hein, à mon âge, apprendre un autre instrument. Et je continue à. Enfin, je suis en train de terminer mon quatrième roman qui sortira au Chili en septembre. Et je crois que la retraite n'existe pas pour les gens qui ont envie de faire des choses, de s'entourer des beaux moments, des instants esthétiques et de qualité. Je crois que la retraite n'existait pas. Et je pense ça, pas seulement pour ce qu'on appelle les artistes. Je crois que tout le monde a les capacités, une fois que l'âge arrive, de continuer à faire des choses, ne pas s'arrêter. Le fait seulement de se lever le matin, descendre l'escalier, aller dire bonjour aux gens de la rue, du café, faire un tour dans Paris, cette ville merveilleuse, c'est déjà une activité spirituelle pour moi, chose que je fais tous les matins. Et donc, c'est pour, tout le monde peut le faire, et tout le monde peut écrire un petit poème ou faire un dessin, sans avoir l'ambition de devenir ou de devenir une vedette ou apparaître à la télévision. Heureusement qu'il y a d'autres moyens pour se faire connaître. Simplement, aller au café et vous faites connaître des gens du quartier, et ça, c'est formidable.
Je me suis penchée, moi, sur ta vie. Et je me suis aperçue qu'elle était excessivement mouvementée. J'aurais aimé savoir ce qu'était le Chili quand tu avais 10 ans. Parce que j'ai su que tu avais fait les cirques ambulants à l'âge de 6 ans. Et je me suis dit, mon Dieu, mais comment est-ce possible ?
Bon, ça c'est possible quand tu es dans une famille de saltimbanques. Il y avait mes oncles qui travaillaient au cirque, soit comme acrobate, trapéziste ou clown. J'en ai encore un vieux clown chilien qui s'appelle Canarito et qui est mon oncle, frère de ma mère. Et ils nous amenaient avec eux et on faisait effectivement, c'était des cirques familiaux, c'était la famille qui travaillait. Il y avait mes cousines qui dansaient les mambos, l'autre qui était contorsionniste. Et moi-même, je dansais la cueca, la danse nationale, déguisé un paysan chilien avec des femmes ou des jeunes filles de l'assistance des gens qui venaient voir les spectacles. Et c'était, j'imagine, très drôle. À la même époque, je commençais à chanter et je répétais comme un perroquet des chansons à la mode à la radio. Donc il y avait un chanteur qui s'appelait Léo Marini, argentin, qui chantait des boléros avec une voix de velours comme la tienne. Et donc je me suis mis à imiter ce monsieur, mais j'avais 6 ans effectivement. Et mon souvenir concret, c'est de voir, j'étais sur une chaise, parce que trop petit. Bon, je n'ai pas grandi non plus, hein. Je fais 1m65 à peine. Et sur une chaise, et avec devant moi un énorme micro, et je vois 3 lettres, RKO. Je crois que c'était la marque de ces micros de l'époque. Et c'était terrible parce que comme ça pendait de je sais pas où, du ciel, ce micro, il bougeait. il bougeait avec le vent, avec... C'est une modeste chapiteau de cirque. Alors ça bougeait et moi je suivais les micros pour pouvoir chanter devant lui. Et je chantais une chanson pour adultes. Mon péché s'appelait le boléro. Et il parlait de toutes les cochonneries qu'on est capable de faire. Et après, on est qualifié de pêcheurs. Quoi. Et ça, c'était le grand succès de l'époque. Donc, on peut dire que je suis né en France. Je crois qu'on appelle ça enfant de la balle. Non?
Oui, tout à fait.
Ouais, mm-hmm. Voilà. Alors, c'est ça. Et le Chili, pour moi, le Chili n'existait pas. C'était ma famille. C'était les cirques. C'était ma mère. C'était mon entourage. C'était mon père qui était cheminot. Et qui était déjà séparé de ma mère, et j'allais le voir à la gare. Il arrivait avec une énorme locomotive qui marchait à vapeur à l'époque. Et donc le Chili, pour un enfant de cette époque, je ne me souviens même pas qui était le président de la République. Bon, maintenant je peux le dire, mais à cette époque, ça ne m'intéressait pas. Je ne savais pas que j'étais destiné après à faire de la politique, à m'engager à travers mes textes et mes chansons pour la cause de la gauche chilienne. Le Chili, à cette époque, c'était que des beaux souvenirs. C'était beaucoup de liberté, beaucoup de nature, des balades autour de ces cirques qui allaient dans des petits villages perdus, dans la cordillère ou dans le littoral. Et cette vie familiale, après la séance est terminée, tout le monde dans la même piste, on mettait une énorme table, on mangeait tous là et on partageait. Et j'ai reçu mon premier salaire à l'âge de 7 ans ou 6 ans là, dans le cirque. Chacun gagnait selon sa participation au travail. Et c'était formidable, quoi.
Alors, je sais également que ta maman, Violeta Parra, s'était fortement intéressée à tout ce qui était le folklore chilien. Et alors c'est amusant parce qu'elle a fait ça avant l'heure, avant même qu'en Europe on s'intéresse à ce folklore de chaque pays. Qu'est-ce qui lui est passé dans la tête? Parce que je sais que tu as travaillé avec elle pendant quand même pas mal de temps là-dessus.
Moi, je pense que ma mère, elle avait raison de passer ça. Elle pensait qu'elle avait une mission dans la vie, qu'elle devait faire quelque chose pour la culture populaire chilienne. Bon, dans notre famille, on est tous autodidactes, donc il n'y a pas de diplôme, pas d'université. Donc c'est encore plus difficile parce que à cette époque, si tu n'avais pas de diplôme, tu n'étais pas crédible. Mais elle a fixé son travail comme une mission sauver ce qui restait de la mémoire traditionnelle. La mémoire traditionnelle, en passant par les légendes, la manière de s'habiller, c'était un travail sociologique presque. Et la collection de 3000 chansons à peu près, différents styles, différentes régions. Le Chili, comme vous savez, c'est un très long pays qui a 4700 kilomètres de longueur. Et dans chaque région est différente. Le climat de Arica, qui est l'extrême nord, est complètement différent au climat de Punta Arenas, qui était froid. Maintenant, avec le réchauffement de la Terre, on voit des choses étranges. Et donc, il y a des climats tout à fait différents. Et ça fait que l'homme même, il change. Il est différent. On ne danse pas, on ne chante pas, comme à Chiloé, dans les îles du sud du Chili, qui est à Iquique, par exemple, dans les fêtes païennes religieuses. Ce n'est pas la même musique, ce n'est pas le même accent, ce n'est pas le même rythme. Et ce rythme, cet accent, c'est le temps, c'est le climat, c'est le paysage qui s'impose.
Est-ce qu'il y avait danger de perte de cette identité musicale?
Complètement. Nous sommes toujours en danger, hein, dans un péril permanent. Parce que, et c'est là peut-être où je peux expliquer mon engagement politique, nous savons très bien qu'est-ce que c'est l'impérialisme. L'impérialisme pour nous, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ils ont collecté des étoiles dans leur drapeau en annexant territoires, on parle pas du Mexique, mais aussi de Puerto Rico. Et c'est ce qu'ils voudraient, c'est que les Latino-Américains parlent tous anglais et que tout le monde soit à l'heure de Washington. Et nous avons compris très, très tôt qu'on ne voulait pas de ça. On ne voulait pas de ça, qu'on avait une légitimité. On vient d'un pays qui est entouré d'un côté la cordillère des Andes, de l'autre côté l'océan Pacifique. Et on est complètement différent aux Argentins, par exemple. Les Argentins sont différents des Boliviens. Les Boliviens sont différents des Paraguayens. Les Brésiliens, à l'intérieur du Brésil, il y a 40 cultures différentes. Au Mexique, on parle 37 langues indigènes, originales. Donc, nous avons compris que cet impérialisme allait passer sur nous comme un tank et nous effacer. Et ma mère, la première à comprendre qu'il fallait absolument faire connaître d'abord aux Chiliens, les expliquer qu'ils avaient déjà quelque chose qui existait. Et la musique qui passait à la radio ne correspondait pas du tout à ce qu'on chantait à la campagne, ce qu'on chantait dans les fêtes des familles, dans les fêtes religieuses, mais ça n'avait rien à voir. Donc, il y avait deux réalités. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons, Isabel, le groupe Intihimani, Kila Payoun et les autres, Patricio Mans et moi-même, nous continuons à expliquer aux jeunes chiliens qu'ils ont une culture. C'est-à-dire que le travail formidable qu'a fait ma mère, on continue à le protéger, à le défendre et à le développer. Parce que le style Star Academy est partout dans le monde. Donc les jeunes, ils pensent que ça c'est la musique qu'il faut chanter. Et nous d'un côté, et je me considère créole, mais les Indiens originaux du pays, les Mapuches, ils ont une position beaucoup plus radicale parce qu'ils ont une langue, ils ont une religion, une culture. Donc on est tout le temps en péril. C'est pour ça que c'est tellement important de parler, de dialoguer, de discuter. Le monde des idées, c'est la seule chose qui peut nous sauver. D'être demain tous comme des robots, et tout le monde au rock'n'roll, tout le monde à la carte de crédit, tout le monde endetté jusqu'au cou. Et c'est les jeux de l'impérialisme.
Est-ce que c'est ces peuples indigènes, finalement, qui étaient là avant la conquête espagnole, visiblement, est-ce qu'ils ont, je veux dire, une racine au niveau musical dans la chanson chilienne ?
Dans la chanson chilienne, non. Et je suis clair sur ce point parce que ma mère est allée faire des enquêtes dans le sud du pays, dans la région de Temuco, où il y avait des Indiens. Elle a eu un contact, on lui a donné des extraits, des extraits de vie, parce que les chants des Mapuches, c'est un chant presque religieux, et leur danse aussi. Et elle a compris qu'elle, en tant que criolla, que créole, elle ne pouvait pas se mettre à la place d'un Mapuche et commencer à imiter. Si tu veux, ça c'est un terrain que c'est à eux de développer. Ils ont développé beaucoup d'aspects dernièrement, depuis que la dictature au Chili est terminée. Et ils ont repris une conscience de nationalité, des nations. Des nations Mapuche, ils ont un drapeau, et ils ont des organisations politico, presque, je dirais, militaires, parce qu'ils sont en train de récupérer des terres qui ont été volées au peuple Mapuche. Donc la chanson chilienne n'a pas de racines de cette musique-là. Par contre, on peut dire que le nord du Chili nous apporte beaucoup, parce que le nord du Chili, c'est une espèce de passoire entre, je l'appelle la région de quatre cultures. Là, il y a l'Argentine, le Pérou, la Bolivie et le Chili. Et les gens passent d'un côté à l'autre. Et on ne sait pas qui est chilien, qui est bolivien, qui est péruvien. On se ressemble tous. Et ils adorent la même Vierge du Carmel, la Virgen de la Tirana. Ils ont le même instrument de musique, et la chicha pour boire et faire la fête est la même. Eux, ils ont donné ce peuple-là, le peuple quechua et aymara, la Kunsa et d'autres minorités, ils ont donné beaucoup à la musique, ce qu'on appelle ici la musica andina, la musique des Andes. Musique qui s'est fait connaître en France les années 50, justement avec los Incas et tant d'autres, le Guarani, etc. Et je crois qu'eux, ils ont apporté, les peuples du nord du Chili, ils ont beaucoup apporté à notre musique.
Alors, quelques années, ou pendant, je pense, tu as rencontré le grand compositeur argentin. Alors, je ne parle pas la langue, mais c'est Atahualpa Yupanqui.
Oui.
Que t'a-t-il apporté, lui ?
Ah, Atahualpa Yupanqui, on dit en Amérique du Sud, c'est le père del nouveau chant, de la nueva canción, et Violeta Parra, c'est la mère. Alors, il m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup, énormément. Je suis allé voir l'année 67, quand il est venu au Chili donner un concert. Je voulais lui montrer que j'avais enregistré un disque « Ángel Parra chante Atahualpa Yupanqui ». J'avais 27 ans et je l'ai invité chez moi. Il est venu gentiment, il est venu à la maison. À partir de ce moment, on ne s'est plus séparés parce qu'il est devenu une partie de la famille. Il m'a apporté beaucoup de choses. Le même jour, à la fin de la soirée qu'on avait passée ensemble, il m'a donné un texte pour que je le mette en musique, « En el Tolima ». Une chanson qui parle del rio Tolima, du fleuve de Tolima en Colombie, de fruit d'une expérience qu'il avait fait, un texte d'une beauté magnifique. Et jusqu'à l'année 82, à Paris, après, en exil, lui-même en exil aussi, il habitait rue Raymond-Lasserrand et moi j'habite rue de Gergovie. Mais c'est un homme qui m'a donné beaucoup de choses, beaucoup de savoir écouter les autres, ne jamais abandonner les langages populaires, la forme populaire de dire les choses et écouter le peuple. Je crois qu'il a donné, pas seulement à moi, à des millions de personnes dans le monde. Et on a continué à développer notre amitié à Paris, on a fait des tournées ensemble. Et je disais, maestro, pourquoi vous me choisissez ? Moi, quand il y a tellement de chanteurs argentins, guitaristes qui peuvent vous accompagner. Non, non, mais c'est, moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Venez avec moi. Et je suis un guitariste, je ne dirais pas médiocre, mais je ne suis pas un grand guitariste. Mais il était très content que je l'accompagne, parce qu'à l'époque, il ne jouait plus déjà la guitare. Et pour moi, je suis fier de tout ce qu'il m'a donné, et que peut-être je ne peux pas transmettre, mais je sais que je l'ai. J'ai un héritage en lui, de lui.
Peu de temps avant, parce que là on a fait un petit peu un bond dans ta vie, mais j'ai appris également que tu avais fait un court séjour à la télévision. Pourquoi la télévision ? Quel intérêt avais-tu à travailler avec cette nouvelle télévision chilienne ?
Je commençais en Uruguay, à Montevideo. Je commençais à Montevideo parce qu'à l'âge de 13 ans, j'ai quitté ma maison. Je n'avais plus envie de vivre en famille. Je suis parti avec une pièce d'identité chilienne, sans aucune autorisation. Je comprends pas toujours comment les douaniers, la police d'immigration m'a laissé passer, traverser trois frontières. Et je suis arrivé à Montevideo, où j'avais une adresse de connaissances de l'époque, qui m'a reçu enchantée chez elle. Elle avait des enfants un peu plus âgés que moi. Et donc, j'étais très bien reçu. Et je me suis installé dans cette maison. Et à moi, et je me suis dit un jour, bon, si je veux rester ici, il faut que je travaille, il faut que je cherche un boulot. Et à Montevideo, il y avait une chaîne qui était en train d'être lancée. Et je me souviens, le studio n'était même pas terminé. Et on m'a engagé comme homme de ménage. Je faisais le ménage. Et petit à petit, comme c'était tous des pionniers, un jour, ils ont découvert que je chantais, que je jouais la guitare. Ils m'ont dit, alors, tu es capable, tu voudrais ? Ben, je dis, oui, passez-moi une guitare. Donc, je suis passé à être un peu un jeune à tout faire, si on peut le dire comme ça. Un jour, il y avait un autre personnage qui manquait, l'assistant de la sono, qui devait être avec les booms dans les studios, suivre les mouvements des chanteurs. Et on m'a proposé de le faire. Et j'ai accepté, naturellement, parce que pour moi, c'était monter vite dans la profession. Et donc, j'ai eu la chance, le privilège de faire le son de Juliette Gréco dans les studios, de Sammy Davis Jr., de Maïsa Matarazzo et de plein de groupes argentins et uruguayens. Donc, j'avais une expérience réelle quand je suis arrivé au Chili. Parce que, j'étais mineur, ma mère, à travers l'ambassade, m'a fait revenir au Chili. Et j'avais une expérience, c'était peut-être une de seuls jeunes autour de Raoul Aicardi, qui était le directeur de cette nouvelle chaîne qui commençait. On transmettait seulement 2 heures par semaine. J'avais déjà vu des caméras, des studios, j'avais une expérience. Et ça me plaisait, mais je n'étais pas satisfait, je n'étais pas complètement satisfait du milieu déjà. Et j'étais en train de devenir, disons, assistant de direction. Et un jour, le Parti communiste décide de nous inviter à un festival de la jeunesse à Helsinki, à Finlande. Alors j'ai abandonné la télé. Voilà.
C'est tout simple.
C'est tout simple.
Alors, peu de temps après, tu es parti en Europe avec ta maman et ta sœur. Alors, ça a l'air d'être des relations passionnelles, parce que vous ne vous quittez pas, finalement.
Ben, écoute, si. Et après le festival, on a passé 2 ou 3 mois, on a visité, parce qu'on a eu des prix en Finlande, à Helsinki, et ces prix consistaient à aller chanter dans différents pays socialistes de l'époque, pays qui n'existait plus en tant que tel. Et on a fait une tournée de 3 mois ensemble. Un jour, on décide de partir et elle dit « Mais où est-ce que vous allez ?» Je dis « On va à Paris. » Et elle voulait qu'on continue ensemble en Italie pour faire d'autres concerts. Mais nous, on voulait, avec Isabelle, venir à Paris. Alors, elle a dit « Bon, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse ici. » Elle nous a laissé dans la gare. Et on est parti à Paris, on est arrivé à la gare du Nord, et à la sortie de la gare du Nord, on a rencontré un groupe de Chiliens qui nous ont dit « Mais vous vous trompez de quartier ici, il faut aller au quartier latin. » C'est là où il y a des endroits où on peut chanter. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la Candelaria, à l'Escale. Bon, ici, il y avait tout à l'époque, la polka de mandibule, la guitare, la contrescarpe, tout était dans le quartier. Et on a été engagé le soir même, tout de suite, par Miguel Arosena, qui était le patron de la Candelaria. Et une semaine après, on nous dit, mais vous savez qu'il y a d'autres Chiliens. Il y avait très peu de Chiliens à l'époque, rue Monsieur le Prince. Il y a une autre Chilienne qui est dans le quartier et qui chante. Alors, on est allé voir la vitrine de l'Escale. Il y avait une photo de ma mère. C'était elle. Les retrouvailles, on était formidables. Et à partir de là, bon, la vie était tellement riche à cette époque. Les amitiés, les gens qui connaissaient, les voyages... Bon, c'était un temps magnifique.
Toi qui connaissais ce Paris de l'époque et celui de maintenant, qu'est-ce qui a changé ?
Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses, naturellement, beaucoup de choses. Et dans le quartier, surtout, le quartier a été, je dirais, touristifié. C'est devenu un quartier touristique et un quartier chic. Un quartier friqué, plein de boutiques. À l'époque, je me souviens, nous, on gagnait 20 anciens francs, anciens francs. Et avec 5 francs, tu payais la chambre de l'hôtel. Moi, j'étais à l'hôtel du Putrin, rue du Putrin. Et avec 100 francs, tu mangeais. Tu avais pour la journée, je mettais 10 francs de côté. Il n'y avait pas l'immigration qu'il y a aujourd'hui. et que je trouve tout à fait normal. Des gens qui sont pauvres, misérables dans leur pays, ils viennent chercher les miettes de ce qui reste. Et, mais le quartier, donc il n'y avait pas de contrôle de police, je voulais parler de ça. Jamais je
sais. À cette époque-là, ce n'était pas nécessaire.
Non,
enfin,
bon, non.
Aucun
problème. Et les gens qui étaient ici dans le quartier, ils habitaient dans le quartier. Et il y avait des petits endroits où tu pouvais acheter ton gaz, les charbons. Il y avait des drogueries, il n'y en a plus. Trouver une drogerie dans le quartier, c'est impossible aujourd'hui. Il y avait une vie familiale, une vie conviviale magnifique. Et beaucoup d'étudiants qui venaient le soir à l'Escale, à la Candelaria, des étudiants qu'après je rencontrais 20 ans après, dirigeants politiques dans leurs pays respectifs. Bon, on dit que ça a beaucoup changé naturellement, c'est normal. J'imagine que les gens qui sont aujourd'hui 30 ans, 20 ans, et dans 40 ans, ils verront que ça a changé énormément aussi. Chaque époque, on se rappelle de cette époque avec des détails qui font que les souvenirs soient plus proches de la réalité d'aujourd'hui.
Pourtant, visiblement, dans le quartier, il y a une demande peut-être nostalgique de cette culture où il y avait énormément de groupes qui venaient jouer dans les boîtes et tout le monde a l'air de regretter ce passage assez sono que l'on met systématiquement à la musique actuelle. Ça perd de l'humanité.
C'est vrai, mais je crois qu'on ne peut rien faire, hein, parce qu'il y a des expériences. Par exemple, il y a une petite boîte, La Vieille Grille, où il y a des groupes latino-américains qui passent, mais il y a 4 personnes.
Oui.
Et c'est tout petit. Donc, il faut essayer de trouver d'autres espaces. Moi, j'ai trouvé un autre espace. Moi, je cherche du côté de la vie associative. Je travaille avec la mairie du 14e arrondissement. Je travaille avec les mairies de la banlieue de Santiago de Chile. Et là, on est en contact direct avec les gens. C'est pas nécessaire de passer à la télé, d'être dans le journal pour être apprécié. Donc, il faut aller vers les gens. Il faut aller voir les étudiants à la Sorbonne. Il faut voir l'organisation interne, demander des autorisations et aller chanter là où ils sont.
Tout à fait. De toute façon, c'est ce qu'on remarque aussi au niveau des théâtres et des salles qui sont subventionnées et autres. On a un personnel technicien qui est payé à l'année, au mois et autres, et qui ne travaille finalement que peu de jours dans la semaine, que très très peu, alors que ce sont des théâtres qui pourraient être ouverts tous les jours,
absolument,
tous les jours, tous les jours, à des groupes professionnels ou à des groupes qui jouent. Qui chante,
la salle des fêtes de la mairie du 14e, que je la demande une fois par an, elle est tout le temps avec des spectacles, théâtre, danse. Le troisième âge qui fait une fête, une élection des reines, des beautés, du troisième âge, etc. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les gens simplement, pas comme artiste. C'est une étiquette que les jeunes, surtout, doivent comprendre que ça se gagne au long de la vie. Entre-temps, il faut aller simplement et faire des choses ensemble, s'engager dans la vie politique, dans la vie syndicale. C'est comme ça, je pense, qu'on peut aujourd'hui continuer à faire des choses.
Hein. Ton retour sur le Chili, ça date de quand? Enfin, je veux dire, après ton expérience européenne et parisienne.
Bon, écoute, moi, je suis revenu... venu la première fois en 62, je suis reparti en 64, avril 64, après que ma mère avait réalisé son exposition au pavillon du Marsan du Louvre, parce qu'elle a développé aussi beaucoup de talents différents. Et elle a fait de la peinture, elle a fait de la tapisserie. Et je suis rentré au Chili pour travailler dans la deuxième campagne présidentielle de Salvador Allende, déjà à l'époque 64. Et bataille qu'on a perdue. Et à partir de là, je me suis dit, bon, mon expérience européenne, ça suffit, je reste au Chili. Et je me suis engagé dans le travail politique. Et le travail politique, pour moi, c'était aller chanter dans les grandes concentrations, manifestations du Parti communiste, du Parti socialiste, de la gauche, avec d'autres, comme Victor Jara, comme Isabelle. Et on a compris très vite aussi que la chanson était un instrument formidable, un instrument pour s'approcher des gens, mais aussi pour parler des choses que, des fois, les syndicats n'étaient pas capables de le faire parce que langage trop froid ou distant. Tandis que la chanson, c'est convivial. Je peux chanter une chanson devant 10 personnes et à partir de là, initier après une conversation sur des principes, sur la éthique, la morale, la révolution, l'histoire. Et je dédiais ma vie à faire ça. Après, les événements politiques nous ont amenés à l'élection de Salvador Allende le 4 septembre 1970. Son gouvernement a duré 1000 jours exactement. Le mardi 11 septembre 1973, le coup d'État de Pinochet. C'est peut-être la période la plus dure, la plus terrifiant de l'histoire du Chili. Hein. Milliers de morts, 1 200 000 exilés, les prisons pleines. Donc, ils mettaient les gens dans des stades, dans des lieux qui étaient préparés pour la joie, pour le sport. Et je passais après un an en prison dans un camp de concentration dans le nord du Chili, près d'Antofagasta, à 90 km de la ville d'Antofagasta, à Chacabuco. Et il y a eu une énorme campagne internationale pour ma libération. De toute manière, à l'intérieur de la prison, je faisais beaucoup plus de bruit qu'à l'extérieur parce qu'on a créé des chorales, des groupes, on apprenait les gens à lire, à chanter. C'était une période très forte. Donc, j'étais libéré. Et l'année 1974, en novembre, on m'a expulsé du Chili, à moi et à ma famille.
Ah, c'est pas toi qui es parti du...
Non. J'étais convoqué à la police civile. Ils m'ont donné 4 passeports de ma femme, mes 2 enfants et les miens. C'était clair. Et on est parti très vite. Parce qu'après, ça est devenu très dur et il y a eu beaucoup de morts.
Ce que j'allais dire. Ouais. Il y a eu une espèce d'extermination
absolument,
qui s'est
passée absolument. Après. Surtout dans le domaine de la dirigeance politique, culturelle, les intellos, les intellectuels, les artistes, ils ont été persécutés. Tout ce qui était réflexion, les écoles de journalisme fermées, l'école de sociologie fermée. Bon, enfin, c'est une période qui m'a amené à Paris à nouveau. Je suis parti d'abord au Mexique. Je suis resté pendant 2 ans là-bas. Et toute la mouvance artiste chilien et latino-américain, parce que la situation était la même en Argentine, en Uruguay à l'époque, était à Paris. Et ma sœur était déjà à Paris. Elle est venue au Mexique chanter avec moi. Elle m'a dit, il faudrait qu'on fasse une tournée et que tu restes un peu en Europe. Alors, je suis venu ici en avril 1976 et à partir de là, je me suis installé dans le 14e arrondissement et j'ai commencé à sentir petit à petit que j'ai trouvé une place dans la vie, que j'ai trouvé une petite patrie. Donc pour moi, le 14e, c'est ma deuxième patrie. Et naturellement accompagné d'une femme formidable, parce que sinon c'est impossible. Et ça fait 32 ans que j'habite dans le même immeuble avec la même femme.
Je me pose toujours la question, quand on part d'un pays comme ça, qu'on est expulsé avec femme, enfant, on débarque... Bon, je sais que tu connaissais la France, tu avais vécu pendant 2 ans. Comment on voit la première année, comment ça se passe? Parce qu'on arrive finalement les mains dans les poches, on n'a rien.
C'est différent la vie d'un artiste exilé que la vie d'un ouvrier, ou d'une femme seule avec 2 enfants. L'artiste est toujours sollicité, L'artiste, il va de pays en pays, de théâtre en théâtre, d'hôtel en hôtel, de campagne de solidarité dans le monde entier, qu'il fallait répondre, il fallait être là. Donc je ne peux pas généraliser, je parle de mon expérience. Et mon expérience qui avait été assez dure au Chili m'a fait continuer à faire mon travail d'une manière militante. Et naturellement, tout te manque. Tes amis, ta patrie, ta maison, les enfants, tout manque. Mais c'est une espèce de... C'est tellement vertigineux que tu n'as pas le temps vraiment de t'arrêter... Et te mettre à pleurer pendant des heures. Je peux dire que l'exil des artistes a été un exil privilégié par rapport justement aux ouvriers, à d'autres gens, d'autres secteurs, parce que beaucoup plus difficile. Moi, je parlais déjà la langue, c'était un énorme pas en avant. J'avais choisi Paris-Vienne avant, quand j'avais 12 ans, j'avais vu un film de Jolly Stevens et la scène Rencontre Paris. Et Jolly Stevens, je l'avais connu au Chili, parce qu'il est allé faire un film à Valparaiso. Et donc, pour moi, c'était plus facile. Et toujours, j'insiste et je dis, si on a quelqu'un à côté qui t'aide à t'en sortir, parce que le traumatisme d'un réfugié politique qui est loin de sa patrie, qui vient de sortir de la prison dans un état de santé et lamentable, il faut absolument être deux pour faire sortir l'autre.
Donc tu passes toutes ces années en France à chanter, oui, jouer, composer, et puis, curieusement, on te réinvite au Chili.
C'est-à-dire qu'à la fin de la dictature, Pinochet a voulu montrer un visage humain. Il a dit, bon, la liste de gens qui sont interdits de séjour, je l'annule. Ils peuvent revenir. À ce moment-là, je me suis dit, non, il n'a pas à me pardonner. Je ne suis pas rentré. Je suis allé un an après. Il n'était plus là, heureusement. Et il y avait une période de transition entre la concertation, le gouvernement qui gouverne le Chili jusqu'à aujourd'hui. Et je suis arrivé juste pendant la campagne présidentielle du premier président de la concertation et le départ de Pinochet. Et à partir de là, mes enfants habitant le Chili, comme moi, musiciens, musiciennes, chanteurs... auteur, compositeur, interprète, et ben, j'y vais deux fois, trois fois par an au Chili, mais ma vie est à Paris, ma maison principale, et j'ai une maison secondaire au Chili, résidence secondaire au Chili, et j'y vais tout le temps.
Et ta maman, elle, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Elle était revenue au Chili, qu'est-ce qui s'était passé?
Ah, ma mère est elle est revenue l'année 65, au Chili. Mais aussi entre deux voyages, parce qu'elle était, elle était installée à Genève avec son compagnon, Gilbert Favre, qui a créé le groupe Los Jaidas aussi, qui a été très, très populaire, pas seulement en Amérique latine, aussi très populaire en Europe. Et elle venait au Chili, elle repartait. Elle a créé un espace, un centre culturel qui s'appelle la Carpa de la Reina, dans les quartiers de la Reina à Santiago. Et ma mère était, je crois, fatiguée. C'était une femme extrêmement intelligente, passionnée et volcanique, je dirais même. Et l'année 67, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Donc, à partir de là, à partir de sa mort, s'est produit un phénomène qui continue de m'étonner, 40 ans après. La télévision chilienne fait un concours le mois dernier avec 60 personnages historiques pour sélectionner les 10 Chiliens les plus importants du siècle. Et quand tu vois la liste, il y a Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Violeta Parra, il y a Víctor Jara, Salvador Allende, Manuel Rodríguez, des gens de l'histoire. Et tout d'un coup, tu te dis, sont nos idoles, sont nos guides, tous ces personnages. et sont vivants. La revue Rolling Stone a fait aussi les meilleurs disques du siècle et ma mère est en tête 40 ans après, c'est absolument étonnant.
Donc elle est reconnue autant comme musicienne
que comme artiste, que comme plasticienne. Parce
que comme plasticienne,
oui, oui.
Voilà.
L'année dernière, l'année dernière, le 7 novembre, on a ouvert la salle Violeta Parra au Centre culturel du Palais de la Moneda à Santiago. Et dans 2 ans, elle aura son musée à elle avec toute son œuvre. Parce que ma sœur et moi, on n'a jamais vendu pas un seul tableau ni les tapisseries. On a tout gardé pendant des années et des années avec toutes les difficultés d'exil, de voyage. Pendant un moment, on a mis tout ça à Cuba, après à Paris. Donc, on a toute l'œuvre d'elle. Et là, cette salle qui est ouverte depuis 3 mois à Santiago est visitée, mais c'est quelque chose de formidable. 20 000 personnes par semaine. C'est vraiment magnifique.
Tu sens que tu as encore de l'essence venant d'elle et que tu suis ton chemin en...
Oui, je crois que sans elle, on n'aurait pas fait cette vie qu'on a fait. Elle nous a donné le goût pour la liberté, le goût pour la justice et pour avoir un but dans la vie. Donc, pour nous, c'est quelque chose de formidable. Et avec Isabelle, on est très étonnés aussi parce que c'est vrai, nous avons fait chacun sa carrière. Mais quand on est au Chili, on se réunit toujours autour de la création de ma mère. Et même si notre carrière, on la laisse de côté, on s'en fout. C'est tellement merveilleux déjà. C'est un cadeau royal pour mes enfants aussi. Et mes enfants sont très connus, très populaires et très aimés au Chili.
Alors je te connais moi depuis quelques années. Et puis tu es venu enregistrer plusieurs disques ici. Tu en es à combien d'ailleurs ?
Je crois que je fais les dernières qu'on avait fait ici, c'était Brassens, de Fiesta con Georges Brassens. Je crois que c'est le 90e.
90e
oui.
Album.
Oui, oui, oui. Et j'annonce qu'à partir du 1er mars, la majorité de mes disques seront sur Internet, gratuits, pour tout le monde. Donc, j'autorise à qu'ils fassent des copies, que ça soit distribué entre les gens du monde entier. Il faut simplement faire Angel Parra WordPress et il y a tous mes disques. C'est une espèce de site où je ne vais pas raconter ma vie parce que je le raconte dans mes livres. Mais il y aura toutes les activités, les voyages, les présentations, des photos.
On peut parler de toi comme un chanteur engagé.
Oui, naturellement. J'exige.
Tu exiges.
Oui.
J'avais été étonnée parce que bon, je connaissais à peu près ton style de musique quand tu t'es mis avec Zebda.
Ah oui, oui, oui. Bon, ben ça, c'était les disques d'hommage à Salvador Allende
oui.
Pour les 30 ans, la commémoration du coup d'État. Oui, ça, c'était une très bonne expérience. Pas seulement avec Zebda, sinon avec mon ami Gilles Perrault, qui a fait des textes magnifiques qui ont été lus par... je me souviens du nom...
Pierre Arditi,
qui est venu ici même enregistrer ce texte. Et c'était... Bon, ben oui, oui, oui. Et je continue à faire des chansons. Forcément, le monde devient de plus en plus difficile, surtout pour les vieux et pour les jeunes. Je crois que les chanteurs et les auteurs-compositeurs, ils doivent s'engager de cette manière. Ce n'est pas nécessaire qu'ils rentrent dans un parti, hein, mais avoir une opinion. Avoir une opinion et n'avoir pas peur de dire son opinion.
Est-ce que la parole est plus importante pour toi que la musique ?
Je crois que ça, pour moi, dans mon cas, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et c'est vrai que je me reconnais comme chanteur politique, mais il faut dire que j'ai aussi fait des chansons pour enfants, que je fais une passion selon Saint-Jean, que je fais avec Régine Desforges, chansons érotiques.
Donc, tu as fait des chansons d'amour sur ta femme, là, qui
sont magnifiques. Et puis aussi avec Pablo Neruda, j'ai enregistré un disque. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans une vie. Je crois que ça a été pour moi, c'est une vie utile.
Alors, dans un autre pan de ta vie, assez récemment, tu te mets dans la musique de film. Alors, je ne sais pas si c'est une habitude chez toi ou si c'est une expérience récente.
Non, je commençais il y a très longtemps, justement dans ces films de Jolly Stevens, oui. À Valparaiso, pendant un moment, il y a un incendie, c'est moi qui chante derrière. Donc ça date de 1958. Et petit à petit, ça m'a toujours intéressé. Et j'ai des amis cinéastes, ils m'appellent Raoul Ruiz, Miguel Littin, Hector Rios, enfin des gens qui me demandent parce que leur film a quelque chose avec lequel je peux avoir un contact charnel presque. Et ça m'intéresse beaucoup. Je continue, oui.
Et puis, il y a un autre pan de ta vie, c'est l'écrivain.
Oui, je commençais à écrire en 2000. J'écris un petit roman, Dos Palomitas, et un court roman, ça s'appelle, qui est sorti chez Fayard. Et après, j'écris un bouquin sur ma mère, Violeta se fue a los cielos, qui vient avec un disque qui est sorti au Chili, que j'espère qu'il sortira en France cette année aussi. Disque qu'on a enregistré ici même avec Mathias Pissarro, mon pianiste, et Philippe Lavroux, la partie technique, que je considère d'ailleurs un de mes meilleurs disques. Ah oui, notre meilleur disque, c'est pas le mien, c'est notre disque. Et je écris quelques temps après, un autre roman qui apparaît en Espagne, Manos en la nuque, en français, Main sur la nuque, qui est sorti l'année dernière chez Métayer, en France. Et donc, je parcours la France en ce moment, en train de présenter mon livre, de discuter avec des gens qui ont vécu les coups d'État comme quelque chose de personnel. Je chante deux ou trois chansons et on passe des soirées formidables. Les petites librairies de Provence m'invitent, les bibliothèques également. Je viens à côté de Nantes, à Couéron, il y a la bibliothèque Victor Jara. Et on est allé il n'y a pas longtemps présenter mon livre. Et une nouvelle collection que dirige Bruno Doucet, ceux qui ont dit non, il avait fait un livre sur Victor Jara. Voilà. Et j'adore l'écriture. Je suis en train de terminer un quatrième roman, là, qui sortira en septembre au Chili. Et comme je te disais tout à l'heure, je me suis mis au piano. Voilà. Jusqu'à là, je crois que ça va.
Les débuts sont-ils difficiles?
Non. Au moins, je connais les noms des notes. Hein.
Oui, c'est sûr.
Avec les pianos, c'est facile.
Non, je sais que ça va très très vite, qu'on est déjà musicien pour aborder
Alors, ça m'enthousiasme.
Un autre instrument, oui.
Et puis, je marche beaucoup aussi.
Oui, ça.
Oui. Ouais, 2 heures par jour, ça me fait un bien fou.
Mm-hmm. Des concerts en perspective?
Oui, des concerts, oui. Le samedi 15 à Marseille. Dans le cadre du Festival de cinéma latino-américain, et le 2 avril à Toulouse, dans le cadre du Festival de cinéma latino-américain à Toulouse. Et le 20 avril, je repars au Chili pour une série de concerts aussi, une présentation de mon livre à Lima, au Pérou, et retour le 10 mai à Paris, et le 17, je serai pas loin de Paris aussi.
Très bien, je vois toujours que c'est autant chargé à chaque fois que je te vois.
Oui, ça va.
Merci Angèle, merci d'être venue ici.
Merci à toi et merci à vous pour cette nouvelle possibilité de rencontrer des gens à travers la radio. C'est quelque chose de formidable. Alors je te dis merci et à très bientôt.
À très bientôt, j'espère. Alors écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. C'était Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.